Bonsoir. Province du Congo central, la cité de Mwanda menacée par les érosions côtières. Selon l'administrateur de Mwanda, une moyenne de 3 mètres des terres de cette cité sont érodées chaque année par l'océan Atlantique. Pour faire face à ce phénomène naturel, le gouvernement de la RDC et ses partenaires internationaux dans le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en sigle avaient lancé en 2015 le projet PANA Zone côtière d'un coût global évalué à 25 millions de dollars américains. L'un des actes prioritaires consistait en l'érection des murs pour stopper l'avancée des eaux de l'océan au niveau du village Nsiafumu. Le point focal de ce projet affirme que depuis le lancement en 2015, le gouvernement congolais n'a pas décaissé sa part d'engagement financier évalué à 9 millions de dollars américains. Les experts environnementaux craignent qu'un jour cette contrée ne soit rayée dès la carte. Quelle analyse faire de cette situation? Comment combattre efficacement et de manière durable ces érosions qui menacent la cité de Mwanda? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 13 octobre 2021. Participe au débat André Mbobochi et Bukala, coordonnateur du projet PANA, zone côtière financée par le PNUD. André Mbobochi, bonsoir.
Bonsoir.
Ida Mangala, experte à la division changement climatique du ministère de l'Environnement et Développement Durable. Ida Mangala, bonsoir.
Bonsoir.
Et le professeur Asser Nzovu Luvuji, professeur à l'université de Kikwit. Il est expert en droit de l'eau. Professeur Nzovu, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Vous êtes très nombreux, auditeurs de Radio Capia, nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Dievar Kiasitu Masukina, depuis la ville de Kenge, dans la province du Kwango. Cette situation ne menace pas seulement la cité de Mwanda, mais aussi de nombreuses cités et villes du pays. Ukelo Uochi, depuis la province de l'Ituri. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que le gouvernement congolais gère ce genre de questions avec beaucoup de légèreté, que cette alerte de l'administration du territoire puisse interpeller la conscience de nos dirigeants afin qu'ils s'impliquent urgemment. À Matadi, dans la province du Congo central, vous nous suivez sous la 102.0 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal Plus, channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radioocapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, les érosions côtières menacent l'existence du territoire de Mwanda dans la province du Congo central. Plusieurs familles ont déjà perdu leur habitation engloutie par les eaux de l'océan qui avancent à certains endroits de la côte en raison de 3 mètres par année. Les habitants de Mwanda se plaignent de l'indifférence du gouvernement. Reportage d'Honoré Missinga qui revient de la cité côtière de Mwanda.
La menace est réelle. Selon l'administrateur du territoire de Mwanda, Simon Lumbanzila, une moyenne de 3 mètres de terre de cette cité sont érodées chaque année par l'océan. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement de la RDC et ses partenaires internationaux, dont le programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ont lancé en 2015 le projet PANA Zone côtière d'un coût global évalué à 21 millions de dollars américains. L'un des axes prioritaires consistait en l'érection des murs pour stopper l'avancée des eaux de l'océan au niveau du pays, affirme que ce mur devait être soutenu, sans lequel l'ouvrage érigé n'allait pas résister à la furie des vagues de l'océan. Selon cet expert, depuis le lancement du projet en 2015, le gouvernement congolais n'a pas encore libéré sa part d'engagement financier évaluée à 9 millions de dollars américains. L'opinion estime ici que les autorités congolaises devraient prendre en considération cette menace des érosions côtières à Mwanda, au même titre que la guerre de l'Est et la crise sanitaire avec le Covid-19.
Merci Honoré Missinga Kalala, André Mbobochi et Bukala. Vous êtes coordonnateur du projet PANA Zone côtière, financé par le PNUD. Cette émission est aussi pédagogique. Dites-nous, vous qui êtes expert, qu'est-ce qui explique ce phénomène?
Le phénomène d'érosion, il est un phénomène, disons, érosion côtière, c'est un phénomène mondial. C'est-à-dire avec la montée des eaux, des océans, dit à la fonte des glacières au nord, ça pose problème. Donc il y a les eaux océaniques qui montent de niveau et qui attaquent les côtes. Et la différence ici chez nous à Moanda, c'est que notre côte est constituée, disons, de terres sablonneuses. Donc, si vous allez dans d'autres pays, vous voyez des côtes en France, tout ça, vous avez de roches, ça ne pose pas tellement de problèmes. Ici, nous avons de terres sablonneuses qui sont faciles à être érodées, et c'est ce qui explique effectivement qu'il y a un danger au niveau des Moanda.
Pour faire face à cette menace des érosions côtières, un projet avait été lancé en 2015, projet qu'on a appelé PANA Zone Côtière, d'un coût global évalué à 25 millions de dollars américains. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti. Pourquoi?
Bon, le projet, bon, il faut pas dire que le projet n'a pas abouti. C'est-à-dire que il était question, effectivement, pour, disons, endiguer les érosions dans une grande partie, il fallait avoir un peu plus de moyens, au-delà même de 21 000 dollars. Mais avec ce que nous avons connu dans notre pays, les difficultés que vous connaissez, le gouvernement congolais n'avait pas, effectivement, disposé d'avoir des disponibilités pour faire une contribution. Nous nous sommes contactés seulement par l'apport extérieur du Fonds environnemental mondial et de PLUD, et on a pu réaliser ce qu'on pouvait, c'est-à-dire ce que vous avez dit en introduction. On a érigé un mur au niveau de la cité de Siamfumu, qui était d'abord une capitale provisoire de la RDC à l'époque, où les maisons sont vraiment très attaquées, et on a fait un mur, mais, comme vous l'avez dit, nous avons besoin des mois longs jusqu'à aujourd'hui pour consolider ces murs et diminuer les vitesses des eaux.
Le gouvernement congolais n'a pas décaissé sa part d'engagement financier. Est-ce que vous avez soumis ce problème au gouvernement pour dire que vous avez besoin d'argent pour, par exemple, les moellons?
Bien sûr, nous avons fait, il y a beaucoup d'ateliers. Dernièrement, au mois de mars, il y avait un atelier qui était constitué des autorités, le gouverneur de la province était là, le président de la FEC, M. Youma, était là, le président du Conseil économique était là, beaucoup d'autorités étaient là, on a exposé les problèmes, mais la difficulté reste la même dans le pays, parce que le pays est confronté à plusieurs défis dans le pays. Vous connaissez vous-même que les érosions sont partout, vous avez évoqué ça tout à l'heure, et c'est comme ça qu'on s'est encore abattu à nos partenaires, pour que ils puissent quand même nous venir en aide pour essayer de résoudre ces problèmes, parce qu'ils ont fait un geste et nous voulons que les partenaires plus de FEM qu'ils puissent encore intervenir pour alléger ces problèmes, parce que nous sommes un peu affrontés au niveau du pays à plusieurs défis financiers.
Ce projet est en cours ou bien il est suspendu par manque de moyens financiers?
Les projets, comme vous savez, les projets toujours à un temps. C'est-à-dire que le projet était prévu pour de 2015 à 2020. Et le fonds avait contribué un fonds pour cette période-là. Et cette période étant épuisée, on ne pouvait, les fonds ne pouvaient plus demander des fonds au Fonds environnemental mondial. Mais je sais que le PLUD a continué quand même à appuyer le projet jusqu'au-delà de cette période. Parce que le besoin est là. Le besoin est là de l'érosion. C'est comme ça que nous estimons qu'il faut chercher des ressources additionnelles à ces projets pour qu'on puisse l'achever, parce que le besoin est là de lutter contre l'érosion côtière.
Le besoin est là, mais est-ce qu'il y a urgence?
Effectivement, il y a urgence, parce que bon, si on doit perdre la cité de Moanda, où vraiment il y a des cités touristiques avec tout ce qu'il y a, vous connaissez la seule côte que nous avons en République démocratique du Congo pour aller à l'extérieur du monde, où M. Léopold II a réussi à voir à peu près 40 km de l'océan Indien, c'est à Moanda, et je pense que on doit se mobiliser pour entretenir cette côte. On ne doit pas détruire maintenant cet avantage-là.
Pour nous aider à nous faire un peu une idée de cette menace des érosions côtières, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a changé depuis que ces érosions menacent la cité côtière de Moanda? Est-ce qu'une grande partie de la cité est déjà partie, engloutie par l'océan?
L'administrateur vous a dit que vous avez à peu près 3 mètres, disons, par an, qui sont érodés, engloutis dans l'océan. Et si, je ne sais pas, il y a des journalistes qui sont passés ici. Vous avez vu la route de Banana. Mais je donne le coup chapeau à Perenco. Parce que si Perenco n'était pas là, on ne pouvait plus avoir la route de Banana. Elle était déjà en disparition. On est en train de faire des efforts. Et si les projets par la zone côtière devaient effectivement bloquer cette érosion au niveau de la route de Banana et à tous les autres points névralgiques pour préserver la ville de Moanda. Donc, il y a un danger urgent. Il y a un danger urgent parce que les terres sont parties, les villes, les maisons partent et les routes d'abord partent et c'est une urgence.
Merci André Mbobochi. Ida Mangala, vous êtes experte à la division changement climatique du ministère de l'Environnement et Développement durable. La cité de Moanda menacée par les érosions côtières. Un projet avait été lancé en 2015, PANA zone côtière, justement pour faire face à cette menace. Malheureusement, le gouvernement congolais n'a pas décaissé sa part d'engagement financier. Pourquoi?
Merci beaucoup. Pourquoi le gouvernement n'a pas décaissé? Je ne peux pas dire que le gouvernement n'a pas décaissé totalement, puisque l'intervention du gouvernement est également évaluée en nature. Donc, dans la partie que le gouvernement devait exécuter, il y avait également une partie en nature. Et donc, on évalue en nature et en espèce.
En nature, partie, c'est quoi? Oui, qu'est-ce que le gouvernement a donné en nature?
Ben, en nature, il y a par exemple le fait de loger le projet Pana Zone Côtière dans la cité de Moanda. Et le projet Pana Zone Côtière a un bureau au territoire de Moanda. J'espère que les journalistes qui sont partis, ils ont vu le bureau, les locaux de projet. Alors là, c'est une contribution du gouvernement, en tout cas de la partie gouvernementale. Il y a également le fait que les experts qui travaillent, moi par exemple, je suis experte du gouvernement, mais j'étais également affectée au projet Pana Zone Côtière. C'est aussi ça, l'intelligence aussi, hein, tout ça là, ça contribue à la partie en nature, à la contribution en nature. Bon, il y a également le gouvernorat du Congo central qui était d'accord pour pouvoir mettre à la disposition du projet Pana Zone Côtière une carrière, vous savez, la cité de Moanda, comme l'a dit le cordon Mbobochi, et dans sa configuration n'a pas de roche. Donc on ne devait que prendre les moellons plus loin vers Boma, la ville de Boma. Alors c'est vers la ville de Boma que le gouvernorat avait accepté d'accorder au projet une carrière pour qu'on puisse puiser les moellons qui serviraient à la partie, l'apport des entreprises comme Metelsat, qui est l'agence de météorologie qui s'occupe justement des alertes précoces. Et l'intervention de Metelsat, ça rentre aussi du côté du gouvernement, encore la contribution de la Congolaise des voies maritimes, la CEVEN. Donc tout ça là, c'est ce qu'on évaluait pour la partie gouvernementale. Donc on ne peut pas dire que le gouvernement n'a rien fait. Donc alors, voilà un peu en partie ce que le gouvernement a déjà fait.
Cette contribution peut être évaluée à combien? Des millions de dollars?
Bon, en termes d'évaluation, là, quand je suis en train de, quand je vois les documents du projet, tout était prévu dans les documents du projet, on va déjà dans l'ordre de 8 millions de dollars en nature. Donc, on peut toujours mettre cela du côté. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait d'autres interventions. Vous savez, je voulais apporter un peu d'éclaircissement. Le Pana Zone Côtière, ce projet, c'est un projet du gouvernement d'abord. Ce n'est pas que ça a été conçu ailleurs. C'est ça a été conçu au gouvernement par le souci du gouvernement, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça qu'on a voulu mobiliser des fonds en plus de ce que le gouvernement pouvait avoir. Puisque quand nous allons chercher les financements auprès du Fonds pour l'Environnement Mondial, le Fonds pour l'Environnement Mondial vient en cofinancement. Il ne finance pas, mais il vient en cofinancement. C'est parce que la partie du gouvernement a montré ce que elle pouvait donner. Et c'est comme ça que la partie FEM vient en cofinancement. Le PNUD également est venu en cofinancement. Nous, c'était cela, on n'aurait même pas eu les 6 millions que nous avons eu du FEM. Voilà.
Ida Mangala, le danger demeure. Moanda continue de perdre sa terre ferme, centimètre après centimètre. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour le moment pour éviter que cette cité ne disparaisse?
Oui, merci beaucoup. Le gouvernement est toujours à pied d'œuvre. Le gouvernement ne croise pas les bras. Vous savez, il y a plusieurs défis, mais nous n'avons pas mis de côté l'affaire de Moanda, puisque le projet, comme je vous ai dit, c'est un projet du ministère de l'Environnement. La première partie de financement en cash qui était venue du FEM, peut-être que c'est fini, mais nous sommes toujours en train de chercher à mobiliser d'autres fonds, puisqu'il y a toujours d'autres bailleurs. Et comme l'a dit tantôt le cordon Bobotti, avec la réunion à la télé qui s'est tenue au mois de mars dernier, c'était ça le souci au fait. Donc nous continuons toujours, nous sommes toujours à la recherche des cofinancements, nous cherchons à mobiliser plus de fonds pour compléter, aider la communauté de Moanda à faire face à ce problème d'érosion côtière.
Alors cette communauté de Moanda se plaint de l'indifférence du gouvernement. Cette communauté a l'impression qu'elle est abandonnée.
Bon, au fait, quelque part aussi, on peut dire que c'est une question d'information, puisque c'est l'effort qui est déjà fait, doit être reconnu aussi quelque part. C'est un début, on ne fait pas tout à la fois, on ne sait pas faire grand-chose du coup. Nous y allons petit à petit, mais nous rassurons en tout cas la communauté de Moanda que le ministère de l'Environnement a un œil sur ça. Et d'ailleurs, même du temps du premier ministre Matata Ponyo, une commission intergouvernementale avait été mise sur pied à l'époque pour pouvoir résoudre le problème de Moanda. Il n'y avait pas que le ministère de l'Environnement, il y avait le ministère de l'Intérieur, le ministère des Travaux Publics et tout, parce que c'est un problème national, ce n'est pas que le problème du ministère de l'Environnement. Donc pour dire que c'est un souci au niveau du gouvernement et que vraiment on n'a pas oublié la communauté de Moanda. C'est la seule côte que nous avons en RDC, nous avons 40 km, près de 40 km de côte, et la côte de la RDC, pas seulement la côte de Moanda, pas seulement la côte du Congo central, mais c'est la côte de la RDC, donc c'est un problème national. Et je vous assure que cela est pris en compte, madame.
À ce jour, Ida Mangala, les travaux se poursuivent ou ils sont suspendus?
Bon, nous en étions à l'érection du mur. Les travaux étaient en cours. Mais bon, le mur ne prendra pas toute la côte, vous savez. Il y a d'autres options d'adaptation. Comme je vous ai dit, le projet, c'était d'abord un projet par rapport, je dis, c'est le projet du ministère de l'Environnement pour résoudre le problème des changements climatiques, puisque l'érosion côtière, quelque part, c'est aussi l'effet, comme l'a dit le cordon au début, n'est pas de la montée des eaux. Alors c'est comme ça que le ministère de l'Environnement, nous avons voulu intervenir d'abord du côté changement climatique. Il faut apporter l'information climatique auprès même des autorités provinciales pour comprendre et pour qu'ils puissent prévoir également, puissent intégrer les informations climatiques lorsqu'ils sont en train de mettre au point les politiques, par exemple les plans de développement provincial. Donc voilà un peu les plans d'investissement. Tout cela doit tenir compte du problème de l'érosion côtière. Donc c'est d'abord un problème de l'érosion côtière, un problème des changements climatiques. Mais à part cela, il y a d'autres solutions que nous pouvons également emmener et qui viendront des autres ministères également.
Alors les solutions, nous en parlerons dans la deuxième partie de cette émission. On vous garde encore dans ce débat, Ida Mangala. Professeur Acer Nzo Vuluvuji, vous êtes professeur à l'Université de Kikwit, expert en droit de l'eau. Professeur, votre analyse sur cette situation de Moanda.
Merci beaucoup, madame, pour la question. Il faut dire que, comme venaient de le dire les autres intervenants, le problème est réel. Il s'agit d'un problème du changement climatique et qui a comme conséquence l'augmentation du niveau de la mer. Donc c'est un problème mondial qui ne concerne pas que la RDC. Alors, s'agissant de moins d'ajustement, les études montrent que d'ici 2100, on peut aller à 50 ou 100 mètres d'augmentation du niveau de la mer. Et avec ces données-là, c'est vrai, le projet, comme on l'a dit, c'est une urgence. Il faut endiguer pour que la côte ne continue pas à être érodée, mais ce n'est pas la solution durable. Et parce qu'avec cette augmentation, on sera obligé de monter les murs chaque année, ainsi de suite, jusqu'à suivre l'augmentation du niveau de la mer. Alors, le problème, comme venait de le dire Madame du ministère de l'Environnement, et donc le problème durable doit être analysé plutôt du côté de l'occupation du territoire. Comment on doit aménager l'occupation du territoire? Est-ce que doit-on continuer à laisser Moanda dans sa configuration actuelle ou doit-on intégrer les données actuelles du changement climatique pour qu'on puisse replacer, on puisse réaménager cette ville de sorte que même si les eaux augmentaient, que les habitations ne soient pas atteintes, que les individus ne soient pas perturbés dans leur quiétude. Et donc le problème se pose au ministère de l'aménagement du territoire, il se pose au niveau du gouvernement provincial et même au niveau local pour que la cartographie de cette ville soit revue. Et ce n'est qu'à cette condition-là qu'on pourra durablement résoudre les problèmes de l'augmentation du niveau de la mer. Mais si on s'arrête, comme on le dit actuellement, à la construction du mur, si on s'arrête seulement à endiguer, et donc ça c'est une solution éphémère, et parce que les eaux, quand elles augmentent, elles peuvent détruire ces murs-là, et donc la solution ne sera pas durable dans les jours qui viennent. Voici, de manière condensée, mon intervention par rapport à cette question.
Alors, cartographie revue, selon vous, professeur, pour faire face à cette menace, cela signifie que plusieurs maisons, quartiers de la cité de Moanda devraient être détruits ou qu'il faut délocaliser la cité de Moanda.
Naturellement, quand on dit réaménager, c'est normalement, il faudra qu'il y ait des études qui nous montrent d'ici, par exemple, 2100, d'ici 2050, la montée de la mer va atteindre quel niveau? Quelles sont les parties qui pourront être englouties? De sorte que les murs, quel serait l'impact du mur? Le mur peut contenir les eaux jusqu'à quel niveau? Alors, dégager justement les populations pour qu'elles n'occupent plus les endroits où les dangers sont bien ciblés. Parce que qu'on le veuille ou pas, que si la politique ne travaille pas de sorte à replacer les quartiers qui sont menacés, mais l'eau fera l'affaire. Lorsque les eaux vont monter, elles vont engloutir ces quartiers et ça sera au risque et péril de ces populations. Donc, il est bien entendu qu'aujourd'hui, on doit déjà voir comment délocaliser ces quartiers qui sont menacés, les replacer à des endroits sûrs pour que justement ils soient à l'abri de ces dangers.
Professeur, vous dites que la construction du mur n'est pas la solution durable. Vous pensez que ce mur construit, il peut tenir combien d'années?
Le mur tenir combien d'années, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je crois que les deux intervenants qui connaissent bien d'abord la hauteur du mur, qui connaissent les matériaux avec lesquels ce mur est érigé, peuvent nous dire, ça peut durer combien d'années. Mais déjà, parce que c'est un problème d'augmentation du niveau de la mer, jusqu'ici on ne sait pas la mer ira jusqu'à quelle hauteur. Alors du moment qu'on ne sait pas la mer ira jusqu'à quelle hauteur, est-ce qu'il faut compter sur les murs? Voyez-vous la question centrale qu'il y a là-bas. Alors voilà pourquoi j'ai dit que les études doivent être menées à long terme, qu'on se projette dans l'avenir sur 50 ou 100 ans, voir à quelle serait la hauteur des eaux. Et quelle est la partie qui pourra être, vidée des populations actuellement pour qu'à la longue, on pourrait affecter ces espaces-là à d'autres activités qui, même si l'eau augmentait, ne pourront pas être menacées. Mais laisser les quartiers qui sont en danger, laisser les populations habiter ces quartiers qui demain seront engloutis, c'est justement n'est pas prévoir. Parce que gérer, dit-on, c'est prévoir. Donc on doit aujourd'hui prendre des mesures pour délocaliser justement ces quartiers et les replacer en lieu sûr.
Les auditeurs sont nombreux à appeler sur notre standard pour donner aussi leur point de vue. André Mbobochi, coordonnateur du projet PANA Zone Côtière, financé par le PNUD. On va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Bukavu, dans la province du Sud-Kivu.
Patrice Mouzera Koulimouchi, depuis Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Nous saluons les efforts fournis par ces experts qui viennent d'attirer l'attention du gouvernement congolais à pouvoir bien avant limiter tout dégât environnemental qui proviendrait de ce site. Par ailleurs, c'est une désolation pour notre pays qui, malgré l'appui extérieur qu'il avait reçu et tous les dangers que cela pourrait engendrer au sein de la communauté, notre pays ne s'en inquiète pas. Ce qui laisse dire d'ailleurs que notre pays est habitué à s'attaquer aux conséquences environnementales au lieu de prévenir les causes. Nous, je pense qu'il faut directement mobiliser des moyens conséquents et des experts à la matière afin de limiter tout danger possible. Car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on.
André Mbobochi.
Oui, ben, je voudrais quand même dire un petit mot sur l'avis du professeur qui veut que on puisse dégager la ville de Mwanda. Peut-être qu'il n'a pas été à Mwanda. Mwanda, c'est une ville qui est dans la plaine, n'est-ce pas? À part Baki, il y a la plaine. Donc, ça veut donc dire quoi? Si on suit son point de vue, ça veut dire nous devons aujourd'hui supprimer la ville de Mwanda et aller ailleurs. Moi, je crois que peut-être c'est un point de vue assez pessimiste.
Il estime que le mur n'est pas une solution durable.
Je suis en train de répondre. Les Pays-Bas est un pays, ça se trouve en dessous de la mer. Et ils ont des digues. Nous avons proposé ces murs. Nous avons été en Hollande, on a vu comment on travaille. Donc, ils ont des digues qui font que ils sont en dessous de la mer et la mer est au-dessus. Ça veut donc dire quoi en d'autres termes? Les murs qui sont construits. Maintenant, nous avons un mur qui a déjà fait 30 ans. Il ne faut pas être trop pessimiste. Il ne faut pas croire que le niveau d'eau de la mer va augmenter jusqu'à aller au ciel. Non. Le niveau d'eau aujourd'hui, c'est au niveau de fontes glaciaires, c'est-à-dire de glaces qui sont au nord, qui sont fondues, qui font augmenter le niveau d'eau. Mais ça va se stabiliser. Donc, je pense qu'il ne faut pas craindre de construire les digues ou les murs qui vont permettre à protéger la cité de Mwanda. Parce que si nous prenons aujourd'hui la résolution de supprimer la ville de Mwanda, parce que c'est tout ce qu'ils proposent, parce que la ville de Mwanda elle est assez basse, il suffit qu'il y ait une augmentation de 3 ou 4 mètres d'eau, donc toute la ville sera baignée. Non, je pense que la solution n'est pas là. Aujourd'hui, nous devons voir, parce que dans la côte, il n'y a pas seulement des murs. Nous mettons des murs là où il y a des falaises. C'est-à-dire là où il y a des endroits où il y a des terres qui sont érodées. Mais il y a des endroits où nous faisons des plantations. Nous avons le mangrove qui est là-bas. Donc en fait, le problème, il ne faut pas être pessimiste. On a des endroits qu'il faut mettre des murs. On a des endroits qu'il ne faut pas mettre des murs. Et la ville de Mwanda doit exister. S'il arrivait une magie où les eaux peuvent monter, je ne pense pas que ça va aller jusqu'au ciel. Donc je pense qu'on doit maintenir la ville, on ne doit pas déplacer les populations et nous devons continuer la politique de protection de la ville par des digues ou des murs là où il en faut et des plantations là où il en faut.
Alors que pensez-vous du point de vue de cet auditeur qui pense qu'en RDC on s'attaque plus aux conséquences au lieu de prévenir?
Oui, ben l'auditeur a donné un point de vue qui est vrai, mais je vous ai dit que nous avons beaucoup de défis à relever dans notre pays. Les érosions ne sont pas seulement à Mwanda, nous avons des érosions terrestres qui menacent beaucoup de villes. Donc nous avons beaucoup de défis. Ce pays, c'est un pays où il faut à un moment donné, effectivement, ne pas être trop pessimiste, mais comprendre que nous avons un grand travail à faire et ensemble.
Ida Mangala, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Abalo, amis et héritiers, depuis Kinshasa, nous saluons d'abord la volonté de cet organisme international qu'il a mis en place pour la réhabilitation de cette cité de Mwanda, qui a une renommée nationale et internationale. En effet, la République démocratique du Congo a un sérieux problème, celui de la volonté. Comment expliquer un projet qui a été lancé depuis l'an 2015 et jusqu'à jour d'aujourd'hui, rien n'a été fait. Et pendant que le pays a tous les moyens possibles pour la pérennisation de ce projet qui, au départ, c'est nous, peuple congolais, qui en sont bénéficiaires à part entière et usagers à grande échelle. Nous interpellons le gouvernement central, provincial et les grands notables de cette contrée du pays de mettre à côté ces divergences politiques, d'accompagner le PNUD dans l'exécution de ce projet. Car ces Cette cité produit beaucoup de choses et améliore aussi les systèmes touristiques de la République démocratique du Congo.
Madame Mangala.
Tout à fait. On n'attend pas que le pire arrive. Moi, je pense que la partie gouvernementale s'y met déjà. D'ailleurs, c'est depuis 2015, comme il vient de le dire. Le projet, en réalité, quand on commence les études pour le financement d'un projet, ce n'est pas la même année où l'on finance ce projet. Donc, le projet, les études avaient commencé avant, bien avant 2015. On avait envoyé des consultants sur terrain. C'était le souci du ministère de l'Environnement, justement, parce qu'on voudrait bien résoudre ce problème. Comme je vous l'ai dit, c'est un problème de changement climatique. Alors, pour répondre également à l'auditeur, le premier qui parlait de la prévention, le projet Panazone Côtière prévient également, puisque je vous ai dit tantôt, qu'on a voulu prévenir les risques climatiques. C'est comme ça qu'on a intégré la gestion des informations climatiques, justement, pour aider l'administration centrale, l'administration provinciale déjà et territoriale, pour pouvoir intégrer les informations dans les plans de développement. On a, en dehors de cela, on a également mis en place des moyens de subsistance pour les communautés bénéficiaires. Et on a également mis en place un système d'alerte précoce. C'est pour prévenir justement des risques qui peuvent subvenir, les risques climatiques. Vous voyez, par exemple, les risques par exemple, liés aux vagues, la marée haute, la marée basse, les alertes précoces constituent un outil essentiel de gestion des risques de catastrophes et qui peuvent renforcer la résilience des communautés de moins d'ajustement. Donc, ça nous permet de sauver des vies en amont au lieu d'attendre les conséquences. On a mis en place, par exemple, le coordonnateur peut-être n'a pas eu l'occasion de le dire, on a installé la bouée alisée dans l'océan Atlantique dans le cadre du projet, justement, c'est pour prévenir les risques. Et cette bouée, systématiquement, elle prend des mesures, des paramètres météorologiques et océaniques, et on doit maintenant prévenir avec l'action des radios communautaires pour pouvoir prévenir les communautés chaque fois qu'il y a danger. Et comme disait le professeur, on dit que si nous évacuons, mais nous allons, les communautés ira où? Mieux vaut mettre en place des mesures d'adaptation, des mesures urgentes d'adaptation pour pouvoir prévenir ces risques-là. Nous savons qu'il y aura des risques, mais nous pouvons les prévenir parce qu'il a dit que nous devons mener des études sérieuses et par rapport à ces études-là, mettre en place des mesures d'adaptation. On a installé la bouée alisée à l'océan Atlantique depuis le mois de février 2019. On a également installé le marégraphe, qui est un instrument qui permet de mesurer le niveau de la mer à un endroit donné sur une durée déterminée. Le marégraphe, on l'a installé au niveau du fleuve. C'est justement dans la fin de la campagne congolaise des voies maritimes. Donc voilà un peu les efforts qui sont faits du côté du gouvernement. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être un problème d'information, un manque d'information, mais il y a déjà une volonté politique, il y a déjà un pas qui a été fait de ce côté-là.
Voilà. Professeur Asenzo, vous, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient encore une fois de Bukavu.
Moi, c'est Gabriel Kualanga depuis Bukavu, au Sud Kivu. La cité de Moanda n'est pas la seule en RDC à être sous menace des érosions. Même ici à Bukavu, ce phénomène est fréquent, surtout en ces eaux pluviales, dont malheureusement le gouvernement congolais se désintéresse. Mais qui n'intervient que lorsque les conséquences se sont produites. Tout son aide se limite uniquement aux donations de cercueils et de lancement de messages de compassion aux familles éprouvées. Cependant, pour prévenir cette situation qui pourrait coûter cher à la population de Moanda, le gouvernement est censé donner sa part de 9 millions de dollars américains pour que les 10 projets soient exécutés.
Professeur, brève réaction.
Merci beaucoup. Je commence par revenir à l'intervention du Cordeau. En fait, apparemment, il est très optimiste parce que pour lui, la question des glaces qui s'effondrent va se stabiliser bientôt. Mais il ne dit pas quelle est la cause. Vous savez, on est au stade du changement climatique. Le changement climatique intervient sur base de plusieurs facteurs, de sorte que la chaleur qui augmente tend à faire fondre les glaces, de sorte que le niveau de la mer augmente. Alors, on ne sait pas jusqu'où ce niveau de la mer va augmenter. Ça, je l'insiste. En tout cas, s'il a des études qui disent que ça va se stabiliser à tel niveau, bon, je ne sais pas. Mais moi, je sais que on ne sait pas encore, les études ne montrent pas jusqu'à quel niveau l'eau va se stabiliser. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je n'ai pas dit que les murs, c'est une mauvaise chose, mais j'ai dit que les murs, ce n'est pas une solution durable. Je voudrais insister sur le mot durable, parce que quand on dit une solution durable, ça veut dire que c'est une solution qui est compatible avec les exigences environnementales. Alors, du moment que l'environnement, comme l'a dit madame, l'environnement montre que où les règles environnementales sont en difficulté à ce stade par rapport à l'occupation actuelle, j'ai dit et j'ai proposé que on repense l'occupation de la ville. Repenser l'occupation de la ville, ce n'est pas nécessairement délocaliser la ville de là où elle est à un autre endroit. Non, on peut repenser l'affectation des habitations, l'affectation des quartiers. Quel quartier qui peut abriter quelle activité qui ne serait pas menacée par la montée des eaux? Donc c'est plutôt ça qui était ma proposition. Mais tout ça, ça doit être soutenu par des études qui doivent être menées pour expliquer, pour dire d'ici, par exemple, 50 ans, voici les dangers que guettent qui guette plutôt la ville. À partir de ces études, à ce moment-là, on sait canaliser, on sait prendre des mesures appropriées pour réadapter les affectations de certains quartiers de la ville. Alors, s'agissant de l'intervention de l'auditeur, c'est normal. La question de l'occupation du sol, c'est pas seulement la question de Mwanda, c'est la question de toutes les villes de la RDC. Même là où je suis à Kikwit, il y a des érosions. Voilà pourquoi il est bien logique que nous puissions repenser l'occupation du sol. Comment doit-on occuper notre sol? Quel quartier doit être affecté à quelle activité? Comme ça, nous avons des activités qui sont compatibles avec les sols, qui sont compatibles avec notre environnement, et on enregistrera moins de dégâts. Mais lorsque on veut occuper absolument, comme pour dire, bon, on ferme les yeux, on occupe, on construit, où on veut, eh bien, quand la nature va se révolter, eh bien, la nature ne va pas épargner. Il y a beaucoup de villes dans l'histoire qui ont été rayées de la carte, madame. Donc ce n'est pas seulement la question de Mwanda ou des villes de la RDC. Quand vous lisez dans l'histoire, lorsque la nature se révolte, quel que soit le degré de la construction d'une ville, parfois elle peut être engloutie. Donc il ne faut pas sous-estimer les dangers, croire que nous sommes suffisamment pessimistes. Merci. Nous devons l'être évidemment, tout en étant optimistes, en prenant des mesures, mais on doit anticiper, voir dans quelle mesure les règles environnementales doivent être respectées pour éviter que nous soyons surpris.
Merci, professeur André Mbobochi et Boukala. Je rappelle que vous êtes coordinateur du projet Pana Zone Côtière financé par le PNUD. Nous sommes à la fin de notre émission. Comment combattre efficacement et de manière durable ces érosions qui menacent la cité de Mwanda?
Oui, merci madame. Nous avons l'érosion qui est tout simplement côtière, ce qui fait que sur la côte, vous avez deux parties. Il y a des parties qui sont érodées, ce que nous appelons les falaises, et il y a des parties aussi qui ne sont pas érodées, où nous avons des plantations qui permettent à ce que qu'il n'y aura pas d'érosion. Alors, la partie érodée dans les falaises, ça, il n'y a pas à discuter. Nous devons ériger des murs et devant les murs, nous devons mettre des moellons, briser les vitesses des eaux et protéger que les murs ne puissent s'écrouler. Nous en avons des preuves parce que nous avons un mur qui a déjà fait 30 ans et je vous dis que nous avons plusieurs méthodes de stabilisation. Bon, si on a un peu plus de moyens, allez en Hollande, vous allez voir une cité en dessous de l'océan, on l'appelle ça Pays-Bas. Donc, je ne pense pas qu'il faut sacrifier la vie de Mwanda. J'ai besoin des moellons, à mettre devant les murs pour briser les vitesses, suffisamment des moellons. C'est ce que le gouvernement s'était engagé qui va donner des moellons. CVM s'était engagé pour donner des moellons, mais la CVM n'a pas donné des moellons. Le gouvernement n'a pas donné des moellons. Et alors, nous voulons avoir des moellons pour stabiliser les murs et avoir des fonds pour augmenter à construire dans les endroits où il y a des falaises. C'est comme ça que, pour moi, j'estime que le pays a beaucoup de défis, Nous devons nous tourner vers nos partenaires extérieurs qui nous permet d'avoir des financements pour effectivement et de protéger cette ville qui pourra disparaître alors que c'est une ville touristique avec des mangroves et avec beaucoup de choses. Merci.
Merci André Mbobochi. Ida Mangala, vous êtes experte à la division changement climatique du ministère de l'Environnement et Développement Durable. C'est vrai que vous nous avez dit tout à l'heure que le mur ne prendra pas toute la côte. Il y a d'autres options. Quelles sont ces autres options pour combattre efficacement et de manière durable ces érosions qui menacent la cité de Mwanda?
Oui, il y a aussi la végétalisation, puisque avec le projet Panazone Côtière, on a commencé la végétalisation sur plus de 2 kilomètres, je pense, ou 20 kilomètres, on l'a fait déjà. Alors là, on a fait des études, on a mené des études avant. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'avant que le projet ne commence, on avait mené d'abord des études. Alors, il était ressorti de ces études qu'il y a certaines plantes ou certaines espèces qui peuvent mieux résister à la salinité de l'océan. Il y a par exemple le bananier et il y a aussi des acacias que nous sommes en train de replanter ou de reboiser à la côte. Il y a les bambous également. Donc, il y a ces efforts. Si vous allez à Mwanda, vous allez voir, c'est peut-être petit, mais ça va grandir. Ça redeviendra une forêt à la côte. Et donc, ça pourra permettre également de lutter efficacement contre les effets des eaux, les effets de l'érosion côtière. En dehors de ça, je pense qu'il y a aussi la sensibilisation. Nous devons sensibiliser la communauté de Mwanda. Vous savez, quand vous allez à Mwanda, vous serez vous-même étonné de voir que la communauté n'est pas consciente elle-même du danger de l'érosion côtière, puisque on va prélever les graviers justement à la côte pour la construction des maisons. Donc il y a un effort de sensibilisation à faire auprès de la communauté pour leur montrer le danger. On ne peut pas aller prélever puisque à Mwanda, le sol est sablonneux et comme on manque de roches et on manque de quoi construire les maisons, on va chercher les graviers à la côte. C'est un danger puisque lorsqu'on prélève les graviers, on expose la côte et avec les vagues qui viennent, la montée des eaux et les mouvements des vagues, c'est un peu que provoquer l'érosion côtière.
Le coordonnateur du projet Panazone Côtière vient de faire une requête. Il a besoin d'argent pour les moellons. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Ce sont des requêtes. Nous continuons toujours dans la mobilisation des fonds. Comme le cordon lui-même l'a relevé tantôt, le gouvernement fait face à plusieurs défis, mais nous pouvons également recourir aux partenaires techniques et financiers. Donc nous sommes toujours à la recherche des financements. Merci. Et ce qui est sûr, c'est que nous allons trouver de quoi faire, puisque c'est un problème qui a été soulevé et de part et d'autre, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des partenaires techniques et financiers, nous tous sommes conscients de ce problème et nous savons que devant le mur, nous devons placer les moellons pour pouvoir briser la force des eaux, des vagues.
Merci Ida Mangala. Professeur Asara Nzovul vous dit, professeur à l'université de Kikwit, vous êtes expert en droit de l'eau. Vos propositions pour combattre efficacement ces érosions qui menacent la cité des Mwanda, ça sera aussi votre conclusion.
Merci beaucoup madame. Oui, à l'érection du mur, je soutiens l'érection du mur, et que le gouvernement donne des moyens à ce que ce mur soit érigé, mais je dis aussi qu'on ne doit pas s'arrêter à l'érection du mur, on doit penser l'occupation du sol à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut mettre des plantations à tel ou tel autre endroit pour que de ce côté-là qu'il n'y ait pas des habitations? C'est des choses qu'il faut repenser justement pour que d'ici 2050, 2100, qu'on puisse faire face à l'augmentation du niveau de la mer. J'ai dit oui à l'érection du mur, oui aux autres méthodes qui peuvent atténuer, mais aussi intégrer les études et repenser l'occupation du sol à ce niveau.
Merci professeur. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Michel Outeté, Donna Madimba qui m'ont aidé à préparer cette émission. Jean-Claude Sial a été à la prise de son. Présentation et coordination, Kéline Couté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.